m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Quand elle entre sur scène, on se dit que c'est une ado comme les autres. Jean délavé, blouson vert et sac à dos, longs cheveux noirs et petites lunettes rondes. Elle dépose ses affaires, s'empare de son smartphone et se connecte sur Instagram. Pseudo Jeanne d'Arc avec un K et 3 underscores. Elle lance une vidéo en live et pendant une bonne heure et demie de direct, elle se filme et elle parle d'elle-même, de son mal-être et des démons qui la hantent. Aux internautes qui se connectent sur son compte et au public en face d'elle, assis sur les gradins, qui la regarde, elle, sur ce plateau qui figure une grande chambre tapissée de blanc et en même temps sur les deux écrans verticaux comme autant de téléphones portables sur lesquels s'affiche l'image qu'elle filme et les commentaires et réactions, mots et emojis envoyés par les Instagrammeurs. Singulier spectacle que celui que nous offre l'autrice et metteuse en scène Marion Sieffert et le Festival d'Automne à travers le jeu de cette extraordinaire actrice, danseuse, performeuse qu'est Elena de Laurence. Underscore Jeanne, underscore Dark, underscore, c'est au Théâtre de la Commune, le Centre Dramatique National d'Aubervilliers, dans la banlieue nord-est de Paris. C'est jusqu'au 18 octobre et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors je vous fais remarquer à Marion Sieffert que j'ai bien dit le titre total du spectacle avec les trois underscores hein, pour que chacun puisse effectivement se connecter sur Instagram s'il le souhaite. La dernière fois que vous étiez venu nous voir, Marion Sieffert, c'était pour un spectacle déjà avec Elena de Laurence qui s'appelait le Grand Sommeil et qui était construit autour d'un personnage qui s'appelait Jeanne, qui avait 11 ans et qui nous parlait de dialogue en fait entre l'enfance et le monde des adultes. Est-ce que Jeanne d'Arc, c'est le prolongement de la Jeanne du Grand Sommeil?
Alors oui, forcément, puisque c'est, il y a le prénom, il y a Elena, il y a, c'est un deuxième travail ensemble. Donc forcément, mais à la fois pas du tout, puisque les référents, on va dire, réels des deux Jeannes, de celle du Grand Sommeil et de celle de Jeanne d'Arc, ne sont pas les mêmes. Mais je pense que pour un spectateur, il y a une prolongation, il y a une suite possible, et il y a un personnage de fiction qui se construit entre ces deux spectacles, en tout cas qui grandit. Voilà.
Cette deuxième Jeanne, c'était forcément aussi Elena de Laurence.
Oui.
C'est pour elle que vous avez écrit le rôle?
Oui, c'était au début du travail, oui. On savait qu'en faisant Le Grand Sommeil, qu'on ferait une deuxième pièce ensemble qui allait s'appeler Jeanne d'Arc. Il n'y avait pas encore les underscores, il n'y avait pas encore le K. Mais en tout cas, on savait qu'on voulait continuer à travailler ensemble autour de cette figure-là. Après, sous quelle forme, quel être allait naître de cette... De cette création, ça je l'ignorais encore.
Mais alors pourquoi se servir de la figure de Jeanne d'Arc, de celle qu'on a surnommée la pucelle d'Orléans?
Alors c'est un mélange d'envies diverses. Déjà, je savais que c'était un personnage qui habitait l'imaginaire d'Elena, qu'elle avait envie de, ça faisait partie de multiples, enfin voilà, d'un des personnages de théâtre ou de historique qu'elle avait envie, qu'elle rêvait de jouer, comme un fantasme en fait. Donc moi, ça m'amusait de faire ça. Et puis aussi, moi, j'ai passé mon adolescence à Orléans. Donc la figure de Jeanne d'Arc, je l'ai énormément rencontrée, côtoyée. C'était quelqu'un de palpable. Et puis aussi, l'autre raison, c'est que grâce à Jeanne d'Arc, je pouvais en fait retrouver et replonger dans le catholicisme dans lequel j'ai été élevée, dans lequel j'ai été éduquée. Et dans ce monde aussi... blanc, catholique, français que j'ai connu et puis qui a marqué mon adolescence.
Elena de Laurence, qu'est-ce qui vous intéressait alors dans ce personnage de Jeanne d'Arc avec un C hein, cette fois-ci,
et
ce fantasme de jouer ce personnage de l'histoire de France? Vous n'avez pas la coupe au bol, vous n'avez pas la coupe.
Non, j'avais dit que je me couperais les cheveux que si je jouais Jeanne d'Arc dans un film. Donc c'est pas encore arrivé.
Mais demain, je pense
peut-être. Mais je pense quand même que je me couperais jamais les cheveux. Mais à part la question des cheveux, c'est vraiment une question. C'est un fantasme d'actrice. Donc on sait que ça va pas forcément arriver, mais en tout cas ça nourrit un rapport aux représentations qu'on a envie de créer de soi, qui est très, c'est quelque chose d'assez nourrissant. Donc c'est aussi porté par tout ce qui est par les représentations de Jeanne d'Arc au cinéma, qui ont été aussi dans le travail avec Marion, qui ont été des choses qu'on a retraversées. Et pourquoi Jeanne d'Arc? Parce qu'en fait elle est
dimensionnelle.
Elle est multidimensionnelle, ouais. elle est fragile, elle est guerrière, elle est mystique, elle est dans le concret, elle voyage dans plein d'espaces différents, elle est brûlée, elle est en prison, elle est dans un procès. Il y a tellement de configurations différentes dans lesquelles on peut la retrouver que c'est une sorte de gros diamants multifacettes, et qu'elle est tellement loin dans l'histoire aussi que du coup on peut se projeter sur elle plus qu'un personnage historique plus proche, je dirais. Que la distance qui nous sépare d'elle fait que, en tout cas moi, pour tout ce qui est voilà le jeu, c'est une figure très riche et très inspirante.
Depuis quelques temps, il y a des gens qui ont commencé à se foutre de ma gueule au lycée, mais aussi sur Insta. Et en fait, ça a commencé parce qu'il y a une fille de ma classe en fait qui a vu que mon pseudo sur Insta c'est Jeanne d'Arc, et elle a commencé à se foutre de ma gueule, et surtout en fait c'est qu'elle a commencé à dire à tout le monde que je suis vierge, et en fait du coup ils ont tous commencé à faire des blagues là-dessus à cause de ça, enfin ils ont tous commencé à dire que je suis coincée. Voilà, je suis coincée, et comme je suis coincée, il faut me décoincer, et pour me décoincer, il faut me dépuceler. Et en fait, ils vont faire des trucs comme, par exemple, voilà, ils vont prendre une photo de moi sans que je m'en rende compte, une photo trop moche de moi, et après ils vont la poster sur Instagram, et ils vont commenter hashtag Jeanne la Pucelle, ta chatte c'est un cimetière, tu pues la vierge, on va te défoncer le cul, on va te faire couiner, tu mérites pas de vivre. Enfin, que des trucs comme ça, tout le temps. Et en fait, au début, je me disais, bon, c'est pas grave, n'écoute pas ces gens, ils ne rentrent pas dans ton cerveau, tu n'entends pas ça, tu ne dis rien, ça va passer, ils vont s'arrêter à un moment, ils vont forcément en avoir marre à un moment. Ils sont débiles. Enfin, ça va passer. Mais en fait, ça passe pas. En fait, j'en ai trop marre. J'arrive plus à rien faire. J'ai encore moins envie d'aller au lycée, et j'arrive encore moins à parler aux gens. Et en plus, en fait, j'imagine des trucs que je pourrais répondre. Mais en fait, du coup, c'est encore pire parce que du coup, je suis encore moins naturelle et mais pourquoi ça tombe sur moi, en fait?
Marion Sieffert, on entend là, tout de suite dans la voix, on n'a pas l'image, hein, mais on n'entend rien que dans la voix, dans les intonations, dans les répétitions, dans le timbre même d'Elena de Laurence, le malaise de cette gamine, de cette adolescente, hein, qui est donc Jeanne d'Arc avec un K. Comment est-ce que vous avez fait pour passer de Jeanne d'Arc avec un C à Jeanne d'Arc avec un K?
Ça a été long, c'est-à-dire que... Voilà, comme je le disais, j'avais un titre, j'avais rien qu'un titre au début, et puis Elena. Et puis très vite, s'est posé la question de quelle allait être la matière à partir de laquelle j'allais créer la pièce, j'allais écrire la pièce. Et en fait, c'est apparu comme ça. Enfin, j'avais énormément lu sur Jeanne d'Arc, et plus je lisais, plus en fait, il y avait comme une ambiance, des sensations, des très concrètes, très précises, des émotions en fait de mon adolescence qui revenaient. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est ça, toi, ta matière. Puis aussi, je pense que ce qui a beaucoup joué, c'était que la pièce précédente, j'avais travaillé avec deux interprètes qui avaient mis beaucoup d'elles-mêmes et beaucoup de leur biographie aussi sur scène et dans le travail. Et je m'étais interrogée, en fait, après avoir accompagné des personnes dans ce geste-là, j'avais envie, je pense, de le faire à mon tour aussi, et de faire cette expérience-là, de travailler avec une matière qui est extrêmement intime, extrêmement personnelle.
Donc le terreau, c'est votre propre vécu.
Oui, c'est mon vécu. Après, forcément, exagéré, façonné, pour en faire un personnage de fiction. Et puis ensuite retraversé complètement par Elena, donc ça devient ensuite quelque chose de un rôle, mais la matière à partir de laquelle j'ai écrit la pièce, c'est mon vécu, ouais.
Mais quand vous étiez adolescente, Marion Sieffert, Instagram n'avait pas la puissance qu'elle a aujourd'hui. Ça existait,
n'existait pas, non, voilà. Ça a 10 ans, Instagram. Donc non, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait MSN Messenger, etc. Mais c'est vrai que j'avais pas envie de Donc j'avais pas envie de refaire de en fait j'avais pas envie que le spectateur soit plongé dans les années 2000 qui étaient environ enfin voilà qui étaient les années de mon adolescence. J'avais envie qu'il y ait que ça se passe maintenant, qu'on se dise ah la crise que traverse cette adolescente là, qu'on puisse pas se dire ah c'est bon, c'est derrière elle ou je sais pas quoi, qu'on la partage avec elle et qu'on soit au plus près en fait de sa fragilité, de sa fébrilité. Donc il fallait que ça se passe maintenant. Et donc j'imaginais voilà comment je peux projeter ce vécu là dans aujourd'hui, et en réfléchissant et puis en traînant aussi beaucoup sur Twitter, sur les Twitter d'adolescentes, sur Instagram, etc. Je sentais que en fait cette vie parallèle qui est celle des réseaux sociaux, elle allait prendre une place hyper importante dans le spectacle. Et puis petit à petit, en réfléchissant aussi avec mon collaborateur artistique Mathieu Barrère, j'ai eu cette idée de que le spectacle soit un live Instagram. Et en plus, je me disais que ça allait être un terrain de jeu très fertile pour Elena, telle que je la connais. Je savais qu'elle allait pouvoir jouer avec la caméra du téléphone, avec tout cet espace de jeu qui est quand même assez dingue et en même temps inédit. Et je me disais, je sentais qu'elle allait pouvoir s'y amuser, en fait.
Et voici donc Elena de Laurence face caméra.
En fait, je sais pas trop comment commencer. En fait, je salut. J'espère que vous allez bien. Que vous allez bien. J'ai pas trop l'habitude de faire des lives. En fait, c'est un peu c'est la première fois en fait que j'en fais un. Donc je suis un petit peu voilà, mais donc peut-être que ça va peut-être paraître bizarre un peu au début ou je sais pas, mais en tout cas en fait je voulais parler.
C'est vrai que vous aviez l'habitude de faire des lives avant ce spectacle et de Laurence, parce que c'est vrai que ça nous paraît effectivement bizarre, pour reprendre les mots de votre personnage.
Non, j'avais pas l'habitude de faire des lives, mais j'avais l'habitude de me filmer.
Ah, d'accord. Donc ça, c'est pas nouveau.
Non.
Mais donc vous jouez effectivement face à la caméra, vous tenez votre portable, parfois vous le déposez, on va y revenir effectivement. Vous jouez surtout, voire exclusivement pour la caméra, ou bien vous jouez aussi pour le public qui se trouve en ce moment au Théâtre de la Commune?
Eh bien, là est toute la richesse de la chose, c'est que en effet, le personnage de la fiction fait un live sur Instagram, donc ce personnage-là parle à ces gens qui le suivent sur Instagram. Et l'adresse, la direction, le visage, objet, enfin le téléphone et le cadrage, évidemment. Après, il est aussi pour les spectateurs qui sont dans la salle, évidemment, c'est pas la même... je ne les regarde pas, les spectateurs dans la salle.
Donc là, on a l'impression que le quatrième mur, il est complètement opaque.
Oui, c'est sûr, mais en même temps, mais ça, c'est des choses plus peut-être plus imperceptibles, mais tout ce qui est hors champ et qui est mon corps, mais d'ailleurs, c'est un truc qui se travaille en ce moment au fur et à mesure des représentations. D'ailleurs, je vois la différence entre les premières représentations et même maintenant, donc en une semaine de jeu, que mon corps qui n'apparaît pas, on va dire...
dans le petit cadre du téléphone.
À la caméra, il commence à exister différemment et que je commence à être plus détendu et plus souple et à habiter différemment les déplacements dans l'espace qui sont pas forcément visibles quand on regarde le spectacle en live sur Instagram, mais qui pour les spectateurs en direct, en chair et en os, sont en tout cas aussi perceptibles.
Alors, c'est vous qui vous filmez, vous voyez donc en permanence en même temps dans l'écran du téléphone portable. La dimension technique, ça s'oublie vite.
La dimension technique, vous voulez dire le fait de devoir se filmer,
de devoir
tenir
se filmer,
le cadre,
voilà, éventuellement utiliser aussi les différents filtres qu'Instagram peut.
Alors
voilà.
Ça, c'est des choses qu'on a mis en place avec Marion, qui ont pris du temps en répétition. Après, là, maintenant, la partition, elle est assez, j'en suis assez bien imprégnée.
Et là, ça devient une automatique.
Oui, là, il y a quand même les cadrages et tout ça. Évidemment, c'est une attention qui doit être tout le temps éveillée. Parce qu'il faut pas lâcher ça, parce que ça, c'est ce qui me relie aux gens qui regardent l'écran, qu'ils soient dans la salle ou chez eux ou ailleurs. Et après, ce qui est la ligne, moi, qui me guide, c'est le jeu, c'est la parole, c'est l'adresse.
Mais c'est pas un peu perturbant de se voir jouer en permanence soi-même pendant une heure et demie?
Alors, j'ai eu le temps de m'y habituer. déjà. Et maintenant, c'est moins une question. Parce que, et je vais redire ce que j'ai dit, c'est que c'est le jeu qui guide la chose. Alors évidemment, je me vois tout le temps, mais je me regarde pas tout le temps. Je suis pas tout le temps en train de me dire, ah, c'est moi, ah, j'ai cette tête, ah, j'ai machin. Je me vois. Alors évidemment, parfois, je vais. Mais c'est aussi, c'est un énorme support de jeu. En fait, c'est que c'est.
C'est-à-dire qu'il vous arrive de vous corriger en fonction de ce que vous voyez de vous-même sur l'écran.
Bien sûr, bien sûr. Et c'est un support génial, en fait. Et le miroir, moi, ça a toujours été quelque chose d'assez important, en fait, pour la découverte de moi-même et de mon propre jeu. Et tout mon travail sur la grimace et le grotesque, le miroir est un support incroyable. Et du coup, là, avec le téléphone, qui est à la fois un miroir et un objectif, un miroir qui filme, mais un miroir quand même déformant, parce qu'un objectif comme un téléphone, il déforme quand même. Ça quand même. Et puis en plus, parfois, je l'approche de très près, je l'éloigne,
On change d'angle de vue.
On change d'angle et c'est un partenaire. En fait, c'est comme si j'étais mon propre partenaire.
Alors, vous venez d'utiliser un mot très important, c'est le mot grimace. Quand vous aviez l'âge de jeune, quand vous aviez 16 ans, vous passiez votre temps à faire des grimaces, Elena de Laurence ?
Oui, mais surtout en famille.
Surtout en famille, d'accord.
Oui,
donc pour faire l'imbécile ou bien pour
se... J'étais dans l'intimité, mais plutôt discrète à l'extérieur de la famille, mais ça a changé beaucoup depuis. Mais...
La grimace, c'est un vrai art dramatique, Elena de Laurence ?
Oui.
Oui, clairement. J'ai vu que vous aviez fait un master sur Valeska Hertz, qui n'est pas très très connue. Voilà, merci de me corriger, Valeska Hertz. Voilà, une danseuse, actrice et humoriste allemande qui utilisait justement énormément ce style de jeu-là. Énormément son visage, son corps chamallow, on va dire, et son visage pâte à modeler, on peut dire ça comme ça.
On peut dire ça comme ça.
C'est quelqu'un qui vous a inspiré ?
Oui, oui. Alors après, c'est pas, je cherche pas spécifiquement à reproduire ou ce qu'elle a pu faire. Ou mais c'est vrai que quand, en tout cas, la rencontre que j'ai eue avec cette artiste a été très importante à un moment où j'étais, où je commençais à faire mes propres performances, où j'expérimentais la création de formes à donner à voir à d'autres. Et du coup, ça a été, ça a été un travail de recherche passionnant parce que. Elle a beaucoup écrit et elle a été aussi actrice. Elle a joué au cinéma. Elle a traversé l'histoire du cinéma jusqu'à sa très âgée. Enfin, elle est fascinante. Et c'est sûr que ça a été et dans le travail du Grand Sommeil avec Marion, ça a été une figure que j'ai partagée avec Marion, qui a nourri aussi le travail et qui a aussi été montrée à Jeanne, la petite Jeanne avec qui on a commencé à travailler. Et c'est vrai que ça a été une sorte de une figure qui a fait un terrain commun, ouais, qui a créé du
dialogue. Imaginaire commun, en fait.
Mais alors justement, Marion Seyfert, comment est-ce qu'on travaille les grimaces avec une comédienne comme Elena de Laurence ? Il y a un don naturel, j'imagine, mais ça demande un travail physique, un entraînement des muscles du visage. Comment ça se passe ?
Moi, franchement, je gère pas du tout cette partie-là.
vous la laissez vous débrouiller toute seule sur cette partie-là, parce que c'est quand même le visage, c'est la première chose que l'on voit pendant
le
spectacle.
Sur son training physique, on était plus préoccupés par la voix. C'est vrai, on a beaucoup plus travaillé sur la voix, mais sur les grimaces, sur le visage, après c'était vraiment une question de cadrage, et puis après toujours d'intention de jeu, comme disait Léna, de décider aussi, de faire exister les personnages les plus pleinement possible, et puis comme un petit théâtre de marionnettes, en fait, il y a tel cadrage chez le père, tel cadrage chez la mère, tel cadrage chez la tante, bon je vais pas dire tous les personnages pour pas spoiler les spectateurs, mais essayer voilà de caractériser le plus possible les personnages et puis aussi de rendre compte de la situation que re-raconte Jeanne. Et donc ce qui était aussi très important, c'était où se dirigeait le regard d'Elena, est-ce qu'elle regarde le téléphone, est-ce qu'elle regarde à droite, à gauche, et donc pour donner vraiment l'impression que c'est des personnes qui se parlent. Donc elle regarde à droite, elle a son téléphone, elle change d'angle, elle regarde à gauche, on a un dialogue en fait.
Alors on va écouter un autre extrait du spectacle que vous évoquiez, La Mère, justement. Donc c'est Elena qui joue Jeanne et qui parle effectivement de sa mère, une mère inquiète et du coup assez, voire très intrusive.
Ma mère est un flic. C'est une grosse, grosse, grosse matheuse. Rien qu'à son visage, ça se voit. Elle a des petits yeux curieux de pie, avides et vifs, une tête de fouine et un nez de tamanoir encore pire que le mien qui sent tous les mythos à 10 kilomètres. C'est impossible de cacher quelque chose à ma mère.
En fait, elle connaît tellement tout de ma vie que si je lui dis pas un petit truc ou que je lui fais un mini mensonge, elle le capte direct et elle me coince.
Mais pourquoi tu me dis pas ?
Pour elle, y a rien de pire que le mensonge. On peut tout lui faire. Les pires conneries, mais lui mentir. Ça, jamais.
Ben oui, mais si les enfants, ils sentent que tu leur mens, que tu vis dans le mensonge, que le père, il trompe la mère, tout ça, bah, quelque part, l'enfant, il sait plus où est la vérité. Parce qu'il vit dans quelque chose de pas sain. Nous, on se fait confiance. Parce qu'on se ment pas. C'est ça le plus important, en fait. La confiance entre le parent et les enfants.
Hélène de Laurence, quel regard Jeanne porte-t-elle sur ses parents ? Question grave.
Bah, c'est peut-être plutôt à Marion qu'il faut poser la question. Mais quel regard porte Jeanne sur ses parents ?
Il aime ses parents.
Elle aime ses parents ?
Non, est-ce que ses parents l'aiment ?
Oui, il l'aime beaucoup.
Voilà. On est déjà dans cette répétition qui effectivement est très très lourde de sens. Marion Seffer.
Quel regard porte-t-elle sur eux ? Je pense que tout l'objet de la pièce, c'est justement qu'elle puisse exprimer son point de vue. Exprimer ce qu'elle ne peut pas dire dans le contexte familial, où on le sait, un contexte familial, c'est un contexte où chacun a sa place, chacun a son rôle à jouer. Et surtout, là, il y a ce qu'on sent, je pense, dans le spectacle, c'est qu'il y a comme une fiction familiale autour de on s'aime, il y a comme quelque chose de parfait, il n'y a pas de vagues, tout roule, il n'y a pas de conflit. Et je pense que ce qui est compliqué pour Jeanne, c'est que elle ne peut pas exprimer de conflit par rapport à sa mère, elle ne peut pas exprimer ce qu'elle ressent. Et dans un monde où, enfin voilà, dans un univers où le conflit est impossible à exprimer, bah ça crée c'est une violence qui est exercée contre elle. Donc je pense que la pièce c'est comme une sorte de grosse éruption de choses qu'elle n'a jamais dites, qu'elle a tues, qu'elle ne peut pas dire, et que là elle se permet, elle explose en fait en live sur Instagram.
Oui, donc elle souffre au départ parce qu'elle n'est pas dans la norme, ou elle souffre parce qu'elle n'est pas libre, parce qu'elle n'a pas l'impression de ne pas avoir choisi son destin.
Je pense qu'elle souffre parce qu'elle n'est pas, en fait, qu'elle est dans une norme qu'elle n'a pas choisie, qui est celle de sa famille, et que donc elle a un désir de rejoindre la norme, celle qui est commune à tous, à ceux de son âge, etc., pour pouvoir ensuite se singulariser et trouver son individualité à elle. Mais je pense que c'est ça aussi qui est un peu ambivalent et compliqué à cet âge-là, c'est que c'est ce rapport hyper fort à la norme et de comment on la traverse, comment on passe aussi par les moyens communs à tous, donc ici Instagram, pour se singulariser avec tous les dangers, toute la prise de risque en fait que ça comporte, puisqu'elle s'expose.
Alors elle s'expose effectivement elle-même, et puis elle parle donc aux Instagrammeurs et Instagrammeuses de son père, de sa mère, de son entourage, et puis de sa petite sœur Louise qui un jour vient lui parler dans sa chambre.
Je sais pas comment j'ai fait, mais je t'ai déjà parlé de Marguerite.
Oui, oui, tu m'en as parlé 50 fois.
Et ben en fait, un jour, on a commencé à faire des selfies, toutes les deux, en train de se rouler des pelles, et ça a trop chauffé les mecs. Genre on était trop les douceurs du camp. Et un jour après la veillée, il y a Franck qui m'a pécho. Et je l'ai laissé faire. Depuis quand tu dis pécho, toi ? Genre, tu parles comme une wesh. Ah, ça va, j'ai pas obligé de parler comme une vieille comme toi. Bon, en fait, j'étais plutôt sur Max, mais lui, il était en couple, en mode fidèle, enfin, un mec bien, tu vois. Mais je comprends pas, en fait, tu l'aimais pas, Franck ? Bah non, mais c'est juste que je sais qu'à chaque camp, il pécho une meuf, du coup, je me suis dit que je pouvais bien en profiter moi aussi. En plus, il était grave musclé, il ressemblait un petit peu à Niska, et toutes les filles le kiffaient trop, mais je te dis... Ah oui, il m'a dit aussi que j'embrassais trop bien. Mais je te dis, j'étais la meuf la plus stylée du camp. Mais vous avez fait... Oui. On l'a fait dans sa tente, pendant que les autres, ils faisaient le guet devant à cause des animateurs. C'est trop cool. Mais en fait, après j'ai marché pendant 2 jours en canard et j'avais l'impression que tout le monde le voyait. Je lui ai rien dit, mais j'avais envie de la buter. En plus, les hormones, la libido ou je
sais pas quoi, l'avait grave fait maigrir. Alors que moi, j'avais passé tout mon été à bouffer et à grossir tellement que j'avais la rage et que je me sentais nulle à chier. Mais ça me troue le cul qu'elle ait laissé une bite lui perforer la chatte avant moi. C'est moi l'aînée, putain! Ça y est, je suis la seule coincée. Ma sœur s'en est sortie. Je pensais qu'on était pareil, qu'on pensait pareil. On aimait les mêmes gens, on détestait les mêmes gens. Mais en fait, non!
Voilà, et pour passer d'un personnage à l'autre, donc là dans cet extrait hein, de Louise à Jeanne, vous utilisez Elena de Laurence, votre visage, mais aussi le cadrage, hein, c'est ce que l'on expliquait il y a un instant, l'angle de vue du téléphone portable, vous utilisez parfois un trépied, tantôt une perche à selfie, vous tenez le portable à la main, vous le posez sur le sol ou contre le mur, tous ces choix-là, ils sont millimétrés, c'est une partition extrêmement écrite, extrêmement précise, il n'y a pas de place pour l'improvisation là.
Non, au niveau des cadrages, enfin, chaque scène, c'est assez précis. Après, c'est plus dans le, on va dire dans la.
Alors, on est à la radio, jeu, vous parlez beaucoup avec vos mains. Alors,
le jeu avec le, enfin, je veux dire le, oui, la. C'est des choses plus
dans
plus
le ressenti, film, on va dans, dire dans le ressenti.
Dans parce qu'évidemment que il y a telle scène qui est avec la perche à selfie, telle scène qui est avec le pied, mais après ça n'empêche pas que ça ne fait pas tout. Enfin après pour moi il y a d'autres choses à faire, il y a différentes manières de l'utiliser, d'en tirer parti.
On a entendu là dans cet extrait, pareil dans l'extrait précédent. Là, c'est un vrai langage d'adolescent. Là, pour le coup, Marion Sieffert, comment est-ce que vous avez écrit justement ces mots-là ? Parce qu'il faut effectivement que le personnage de Jeanne s'inscrive pleinement dans son temps, pleinement dans son époque. Vous êtes inspiré justement de ce que vous avez pu entendre sur les réseaux sociaux ?
Alors, je pense que déjà, je pense que je l'ai pas mal aussi, le langage des adolescents dans l'oreille, parce que... sur la pièce précédente où j'ai vraiment travaillé aussi avec deux personnes qui étaient assez jeunes, il y en a une qui avait 18 ans. Donc je pense que j'étais en proximité aussi de ça. Après, sur cet extrait-là particulièrement, c'est drôle parce que je pense que c'est pas un langage d'adolescent, au contraire. C'est que c'est un langage très cru, un peu qui marche aussi un peu par punchline, par image très forte. Et ça, moi, je me suis plus inspirée de rappeurs, de manière d'utiliser le langage pour avoir des images qui sont percutantes, en fait. Mais des adolescents qui entendent cet extrait-là, ils sont choqués qu'elle parle de son intimité de cette manière-là, avec des mots aussi crus, de manière aussi directe. Un adolescent ne parlerait pas comme ça. Donc en fait, c'est un mélange. Mais après, je pense que du coup, comme on sait que c'est une adolescente, on se dit elle parle comme une adolescente. Mais il y a une fiction qui opère aussi, je pense, là-dedans, dans le langage. Mais après, moi, j'ai pas cherché particulièrement à imiter comment parlerait une ado. C'était plus comment j'allais pouvoir écrire quelque chose. Et ça, c'était aussi beaucoup dans le travail, dans les répétitions avec Elena. Comment trouver une forme d'oralité, quelque chose qui est proche du live.
Avec, justement, en parlant de répétition, c'est intéressant parce que souvent, il y a effectivement des mots, donc ces répétitions, évidemment, au sens d'art dramatique que vous venez d'employer ce mot, mais il y a aussi des répétitions dans le texte qui, au départ, montrent le côté, on va dire, incertain, le côté pas très à l'aise du personnage de Jeanne, mais qui recèle aussi, justement, toute la lourdeur de ce qu'elle peut ressentir.
Oui, et puis c'est une forme de rythme aussi, c'est-à-dire que je pense que chacun a son rythme de parole, et puis que là, au bout d'un moment, il y a un langage qui est à la fois oral, mais en même temps très rythmé, et c'est ce rythme-là qui est écrit. Et puis parfois aussi, la pièce a un langage qui est beaucoup plus presque littéraire, quand on va dans des fantasmes, enfin, je voulais aussi qu'on sente qu'il y ait parfois comme une figure qui apparaisse, que ce soit pas juste une reproduction réaliste d'un live adolescent, mais que on rentre vraiment dans la tête de cette personne et qu'on entende comme des voix extrêmement multiples de tout ce qu'il y a dans sa tête, à la fois les voix des personnes qu'elle connaît et en même temps des voix intérieures, des voix fictionnelles, etc.
Je cherche un peu de chaleur à mettre dans mon corps. Avant de minuit, le tube du groupe Image dans VMDM sur RFI, une chanson qui figure dans le spectacle Tant et aussi faire. Pour quelle raison? Parce que là, on n'est pas du tout dans la génération Instagram, là.
Non, même si je l'ai vu figurer dans pas mal de stories d'ados et c'est un des moments préférés des lycéens qui regardent le spectacle. C'est parce que c'est le moment où elle est à une fête de l'aumônerie, donc un endroit assez ringard où il y a toujours la même musique, comme les musiques qu'on passe au mariage, les musiques des années 80. Et donc, voilà. Voilà pourquoi cette musique.
Bon, et donc, moment préféré
et
des
faut
jeunes,
regarder le, faut, dites, voilà, hein. Un des moments préférés, et puis aussi, il faut regarder le clip.
Oui, bon, très bien. Alors, je renvoie effectivement nos auditeurs au clip. Alors, Jeanne danse donc sur les démons de minuit, comme pour exorciser ses propres démons à elle, hein, Elena de Laurence. C'est autant le corps que les mots qui parlent, hein, qui lui permettent d'exorciser ses démons. On a parlé des mots, on a parlé de la langue, on a parlé des situations. Je voudrais qu'on parle aussi avec la chorégraphe que vous êtes, hein, Elena de Laurence, du rôle du corps. Comment est-ce que vous avez transformé, traduit les démons de Jeanne en mouvement?
Eh bien, déjà, il y a les relations qu'on a instaurées avec les musiques en fonction des différents moments de la pièce. Et du coup, je dirais qu'on a un petit panel de différents types d'exorcismes, comme vous dites. Donc, avec les démons de minuit, là, on dirait qu'on a un corps un peu zombie, décharné, disloqué, qui n'a plus de visage et qui n'a qu'une grosse masse de cheveux noirs qui se secoue dans la lumière rouge. On a un corps, je dirais, de guerrière, mais seule, sans guerrier autour d'elle, avec une musique d'orgue. Donc là où la perche à selfie devient une épée et où elle est dans une... C'est un peu une guerrière au ralenti, qui cherche ses ennemis, mais qui n'existe pas. Et après, on a la dernière scène de danse où là, c'est vraiment, pour le coup, je dirais, oui, une personne qui s'imagine qu'elle est dans les clips qu'elle adore et qu'elle fantasme, et des corps qui sont très loin d'elle, comme, voilà, Cardi B, elle est un peu tout l'inverse de ce qu'est Cardi B, elle est blanche, elle a pas de fesses, elle a pas de seins, voilà, c'est une grande perche, mais elle adore danser, et Cardi, quand elle peut mimer les paroles et avec le filtre se transformer, bien sûr, ne pas devenir elle, mais en tout cas, tenter de dialoguer avec ces corps qu'elle fantasme et qui sont loin d'elle.
Et puis, il y a aussi ce gantelet d'armure, référence à Jeanne d'Arc, on n'en dira pas plus, mais c'est un accessoire qui est bien plus qu'accessoire, hein, dans le spectacle. Alors, Elena de Laurence, autant les moments parlés face caméra sont plutôt verticaux, autant les moments chorégraphiques, pas tous, mais la plupart du temps, sont quand même souvent horizontaux. En termes de film, ça implique aussi une réalisation particulière, donc avec le téléphone portable, qui lui est forcément vertical d'ailleurs.
Oui, mais après je suis quand même assez, parce que dans les démons de minuit, je suis debout.
Debout, oui.
C'est sûr que oui, la vision que donne le téléphone, c'est un cadre très très particulier, très enfermant aussi, parce que c'est vrai qu'on peut pas tout faire. Après dans la scène de danse, je l'enlève du pied, la scène de fin avec le gant, et j'essaie de plus de bouger avec, mais c'est vrai qu'en même temps, il y a une sorte de, quand je l'ai dans la main, il y a une distance qui est celle de mon bras et qui peut pas être plus grande. Donc c'est toujours quelque chose de très, on perd beaucoup, mais en même temps on choisit du coup ce qu'on veut montrer. Et en même temps, quand les gens sont dans la salle, ils ont aussi le plaisir de pouvoir voir les deux. Et
mais alors justement, la danse, c'est aussi important pour les Instagrammeurs que pour le spectateur dans la salle, Marion Sieffert?
Ah oui, je pense complètement, oui. Les moments de danse, on sent que les gens sont trop contents. Il y a une pression qui se relâche. C'est extrêmement important. Je pense que il y a la même énergie en fait, c'est un moment d'énergie qui peut éclater.
Vous m'en direz des nouvelles ?
La avec Marion Sieffert et Elena Delorence pour Jeanne d'Arc à l'affiche du Théâtre de la Commune à Aubervilliers dans le cadre du Festival d'Automne. Et dans la salle, je vous garantis qu'on ne s'ennuie pas une seconde. On regarde évidemment Elena Delorence en train de se filmer, on la regarde danser, évoluer sur le plateau et on regarde aussi donc les deux écrans, un côté cour, l'autre côté jardin, écrans verticaux sur lesquels on voit l'image du live Instagram et les commentaires des Instagrammeurs qui vont avec, donc en direct évidemment. Avant d'en parler plus précisément, Marion Sieffert, le piège c'est quoi? C'est que les spectateurs se sentent un petit peu exclus quand même du spectacle. Comment est-ce que vous avez évité de tomber dans cet écueil?
Spectateurs de théâtre, vous voulez
oui,
dire?
Oui, absolument, dans la salle.
Je pense que pour les spectateurs de théâtre, c'est sûr qu'on ne s'adresse pas à eux. Le personnage Jeanne parle à des gens de son âge qui sont sur Instagram et qui donc peuvent lui répondre. Donc on assiste à cet échange-là, on est témoin de cet échange-là. Mais je pense que c'est pas, pour moi, je parlerai pas d'exclusion, mais d'un point de vue qui est relativisé. Et c'est ça, moi, qui m'intéressait, c'était que le monde du théâtre, voilà, c'est aussi, c'est un monde blanc, c'est un monde socialement bourgeois. C'est un point de vue qui se veut omniscient, qui est focalisé par le point de vue du metteur en scène, qui est centré, on organise la mise en scène. Et là, ce qui me plaisait, c'était que ce point de vue-là de spectateur de théâtre soit relativisé par la présence d'un autre public qui est en face et qui sent, et qui est un public aussi qui peut être parfois inquiétant, qui est comme une sorte de bête qu'on peut pas dompter, et qui est sauvage, imprévisible, et qui sont les Instagrammeurs qui peuvent réagir par commentaire et qui réagissent de manière extrêmement différente chaque soir. Et donc toute la, aussi l'autre couche du spectacle, c'est comment Elena réagit à ça, improvise avec ça, travaille avec ça, et toujours en lien, et crée, et parvient toujours à garder ce lien-là.
Alors justement, là on se pose plusieurs questions, nous en tant que spectateurs. Est-ce qu'il y a des complices sur Instagram?
Non.
Aucun?
Aucun.
Donc c'est toujours la surprise, vous savez pas,
oui,
lorsque on regarde l'écran, ce que les Instagrammeurs et Instagrammeuses vont dire.
Non, comme on ne sait pas ce que vont penser les gens dans la salle.
Voilà. Quel regard est-ce que vous portez sur les commentaires en jouant, Elena Delorence? Ça vous surprend? Ça vous déstabilise? Vous faites le tri très rapidement?
C'est assez compliqué. Et là, c'est encore une fois, c'est quelque chose qu'on est en train de découvrir au fur et à mesure des représentations. C'est assez nouveau, parce qu'on n'a pas pu répéter beaucoup avec justement des spectateurs en live, sur Instagram avec des commentaires. Du coup, c'est un truc qu'on est en train, sur le fait sur lequel on est en train de travailler chaque jour. C'est vraiment un travail en cours. Là, on découvre beaucoup de choses. C'est assez particulier, c'est assez compliqué, parce qu'évidemment, parfois j'ai envie de les regarder, mais je dois bien faire la pièce.
Oui, voilà, c'est ça. Donc ça veut dire une improvisation, mais qui doit durer quelques secondes, sans vous faire perdre le fil et sans partir sur des chemins.
C'est ça, il faut que je puisse être assez compliqué, détendue avec le texte, les déplacements, le téléphone, le film, le cadrage, tout ça, pour pouvoir parfois répondre à un commentaire. Évidemment, il faut, et c'est le jeu en fait, il faut qu'on joue le jeu, de prendre en considération ces commentaires, et c'est un live, du coup elle voit les commentaires et il faut bien qu'elle réagisse. Après, je peux pas faire que ça évidemment, et après parfois il y a des choses, il y a des commentaires intéressants, parfois il y en a d'autres pas, parfois il y a des commentaires désagréables, parfois il y a des commentaires très très affectueux. Donc c'est un truc qu'on est en train de qu'on découvre un peu chaque soir, parce qu'on a des surprises.
Mais parce que le risque, c'est de tomber sur des haters, des gens qui pourraient éventuellement faire capoter le spectacle. Ça, vous avez
prévu
une parade?
Oui, on a eu un peu de trolls, des haters, tout ça. Mais après, ça fait partie, je pense. Alors ça, c'est très intéressant, parce que suivant l'âge des gens qui regardent le spectacle, l'impression est hyper différente. C'est quelque chose d'absolument ahurissant pour des personnes qui n'ont pas grandi avec les réseaux sociaux. Mais pour des personnes qui ont grandi avec les réseaux sociaux, c'est une réalité, ça fait partie de la vie. C'est-à-dire que voilà, on sait que sur ces réseaux-là, il y a des trolls, il y a des haters. Et du coup, c'est nous, comment à chaque fois, je pense que la question pour nous, c'est une question de jeu, c'est comment Elena, elle gère son live, et comment elle les réintègre toujours dans sa fiction, et comment ça devient son carburant, et quelque chose aussi qu'elle peut réutiliser à ses propres fins. Toujours réutiliser, quel que soit le commentaire, à ses fins, aux fins du spectacle, et pour rendre le spectacle encore plus vibrant et encore plus... parce que c'est un vrai risque, hein, c'est vraiment... Et ça, c'est un truc qu'on est en train de construire en ce moment, et je peux dire que le spectacle, pour l'instant, n'est pas encore complètement fini, puisqu'on est en train de travailler en direct avec ces réactions-là... Voilà.
Et bon, en plus, on ne sait pas évidemment qui réagit, donc vous ne pouvez pas me dire s'il y a beaucoup d'adolescentes de l'âge de Jeanne qui réagissent ou bien si ce sont d'autres publics.
Ça se voit dans la façon dont les commentaires sont écrits et l'âge des personnes.
Alors, nous, on avait envie de savoir justement comment les ados se racontaient sur Instagram et sur TikTok, un peu comme Jeanne, deux applications qui leur permettent donc de s'exprimer aussi à travers des vidéos beaucoup plus courtes, hein, évidemment, en général. Et elles racontent absolument tout, du contenu de leurs assiettes à leurs dernières ruptures amoureuses. Certains y recherchent du soutien, en profitent pour pousser des coups de gueule. D'autres encore craquent en direct et parfois appellent à l'aide. Amélie Beaucourt s'est donc glissée pour nous dans le smartphone de l'une de ces adolescentes et nous donne à entendre tous ces éclats de voix accessibles à bout de doigts.
Salut les gars, j'espère que vous allez bien.
Les gars, j'ai oublié le titre d'une chanson et je veux absolument l'écouter, mais je connais à peu près les paroles, mais je parle pas anglais, du coup bon courage. It's a God gonna be a good night, in a night gonna be a good good night, a feeling.
Gros coup de gueule. Mais en fait, vous jouez à quoi? En fait, je vous explique.
Aujourd'hui, j'ai voulu faire une bonne action, donc du coup, j'ai appelé ma mère pour la fête des mères.
Est-ce que vous trouvez ça normal? Attendez, je vous envoie. Regardez.
Comment ça, partout dans le monde, c'est le 10 mai? En France, c'est en juin.
Moi, je comprends pas ce que c'est ça. C'est quoi ce nouveau truc sur mon Instagram?
En fait, elle joue à quoi? Enfin, la personne, elle joue à quoi, en fait, clairement? Il faut m'expliquer.
Donc visiblement, en France, il n'y a pas que la SNCF qui est en train de retard, il y a aussi toute la société.
Bonjour, alors là, je vais manger mon petit goûter, donc je vais commencer par ma compote.
Je sais pas pourquoi, mais vous voulez toujours savoir quelle est ma routine maquillage de tous les jours.
Sérieusement, moi ma mère elle m'a rigolé au nez en fait, donc voilà. J'ai honte alors qu'à la base je faisais une bonne action quoi.
Bon, du coup hier j'ai bien compris que du coup à cause de mes troubles il fallait que je renforce un peu le suivi médical. Du coup je reprends contact avec ma psychologue, là je vais la voir.
Coucou mes loulous, donc beaucoup me demandent comment je vais ou comment je vais pas, ben en ce moment ça va pas trop. Je me raccroche tout le temps aux mauvaises personnes. J'en ai marre. Je vais perdre du poids. Je veux avancer dans la vie. Mais toutes les personnes que j'aime, soit elles t'oublient, soit elles partent. Soit elles ont rien à foutre de toi. Ça me tue. Bref, j'en ai marre en ce moment. Merci à ceux qui sont là pour moi.
Actuellement, 4h44. Voilà. Je suis réveillée. J'ai trop mal. J'ai de la douleur qui s'est réveillée, j'ai trop mal. Et en plus, il manquait plus que ça. Je me suis fait piquer par un moustique là sur le coude. Putain, j'en ai marre.
Hello tout le monde. Je m'appelle Sonia D, mais je dirai pas mon nom de famille. Et je suis en terminale ATMSD. Je suis en couple. Mais je vous raconterai ça plus tard. Parce que oui, il m'est arrivé des péripéties. Et ce compte, c'est un compte où je vais vous raconter tous mes secrets. Et vous savez tout ma vie.
Je n'ai pas grandi avec mon papa. Ça, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer pourquoi et pourquoi j'en parle jamais. Parce que c'est des choses voilà, qui sont un peu privées, mais je vais en partager ça avec vous.
Joli bébé, ma douce, je te donnerai mon...
Alors, je sors aujourd'hui habillée comme ça, donc un petit top, un jean et des baskets. Je croise un monsieur de la cinquantaine d'années qui me regarde et qui me dit « T'es vraiment habillée comme une pute, il faudra pas s'étonner des conséquences. »
J'ai grandi, je savais que j'étais lesbienne, mais j'arrivais pas à mettre un mot sur ça. Parce que ma mère, excusez-moi, m'a jamais parlé de sexualité, m'a jamais parlé de l'homosexualité non plus.
On est en 2020, j'ai une épaule dénudée, le drame n'est pas présent. Il va falloir arrêter d'avoir une mentalité fermée comme ça parce que c'est très grave. Surtout que de me dire qu'il ne faudra pas s'étonner des conséquences, de quelles conséquences parles-tu au juste, s'il te plaît? Je crois qu'on n'a pas bien saisi la même notion des choses.
Sur ce, je vous souhaite quand même une bonne journée.
Aime-moi doudou, aime-moi doudou, montre-la-moi doudou.
Voilà, un petit best-of sélectionné, monté et assaisonné par Amélie Beaucourt pour VMDN. Peut-être une réaction, voyons s'y faire quand vous entendez justement ces témoignages. Comment vous avez réagi? Parce que vous êtes passé un petit peu par toutes les émotions là, par rapport à ce que j'ai vu sur votre visage.
Forcément, on est très en... Enfin, il y a un côté... Enfin, c'est la mise en scène de soi, mais il y a aussi une proximité très forte qui se crée avec les personnes puisqu'on les saisit dans leur quotidien et puis qu'il y a un côté aussi journal intime comme ça qu'on sent quoi. Et du coup, forcément, il y a une empathie en fait qui se crée. Et puis...
Parce qu'on est un peu dans la mise à nu et dans la mise en scène de soi en même temps.
C'est ça qui est intéressant.
Un peu sur les deux tableaux, et là, ça rejoint complètement le spectacle, Elena de Laurence.
Oui, oui, bah, c'est ça qui est intéressant. Puis je pense que même, de toute façon, que ce soit sur un téléphone ou non, sur un journal intime, ou on est toujours en train de se construire, de donner une image de soi. Il n'y a pas un récit de soi qui serait neutre, qui serait objectif, qui serait la réalité de soi. On est toujours en train de dialoguer entre soi-même, la ressenti qu'on a de soi, l'image qu'on a de soi, ce qu'on aimerait être. Et c'est toujours, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est la réalité, elle se tisse, voilà, c'est des choses qui se croisent et on n'a pas. Et l'intérêt, il est dans la relation entre différentes choses et pas en une vérité qui existerait.
Marion Sieffer, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des ados qui étaient venus assister précisément au spectacle. Ils se sont reconnus dans le personnage de jeunes. Dites-moi que non, parce que c'est quand même dramatique.
Ça dépend vraiment desquels. Il y a des personnes qui me disent qu'ils se sont reconnus à des endroits plus que d'autres, je pense. Mais ouais, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent qu'ils se sont reconnus. Et des personnes très différentes de moi aussi, mais parce que je pense que les émotions que transmet Elena sont plein de gens peuvent se reconnaître, garçons comme filles, hein, je pense. Après, il y a parfois aussi des phénomènes de c'est tellement proche, et puis c'est vrai que le spectacle va tellement loin dans l'intimité et puis dans des questions qui sont assez angoissantes, je pense, à cet âge-là, que parfois aussi il y a des phénomènes de rejet, puis ensuite le spectacle travaille sur un temps long, puis ensuite de compréhension et de « ah oui, en fait, moi aussi je suis un peu comme ça ». Mais même ça aussi, tout le temps pendant le spectacle, il y a des moments où les gens sont à fond avec elle, et puis d'autres moments, non mais elle pète un plomb, elle est vraiment trop bizarre cette fille, en fait. Et c'est son excès, en fait, et à la fois, je pense, libérateur et en même temps effrayant.
Merci beaucoup à toutes les deux d'être passées pour le studio de VMDN, Marion Sieffer et Elena de Laurence. Alors, _jeune_dark_,
oui.
Bien dit. C'est au Théâtre de la Commune, le Centre Dramatique National d'Aubervilliers, jusqu'au 18 octobre, dans le cadre du Festival d'Automne, et ensuite en tournée.
Oui, en tournée, et c'est aussi le compte Instagram de Jeanne d'Arc, sur lequel vous pouvez suivre le spectacle.
Eh bien, on va suivre le conseil, merci infiniment. Dans une poignée de secondes, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec le romancier Miguel Bonnefoy qui publie Héritage aux éditions Rivage, et vous m'en direz des nouvelles.